Nous allons ce matin partager un sujet qu'on n'aborde jamais. C'est pour ça que je tiens à ce que ce soit bien enregistré, parce que je sais que des pasteurs vont m'appeler suite à cette prédication. Je le sais. Je voudrais que l'on fasse ce qu'on a fait dernièrement, et qui, je pense, dénote le respect que nous pouvons avoir envers notre Seigneur. C'est nous lever pour la lecture, s'il vous plaît. Dans l'évangile de Jean, chapitre 12, nous allons lire le verset 26. Voilà, prenez votre Bible, nous allons faire trois lectures. Ce n'est pas du folklore, bien loin de là. C'est pour redonner à chacun l'importance de respecter la parole. Mes frères et sœurs, ce sont des choses que je ne veux pas faire pour faire, mais je crois que ça doit plaire à Dieu quand on se lève avec cœur devant sa parole. Vous êtes d'accord? Jean chapitre 12, verset 26. Un texte qui nous indique que si nous le suivons, il nous honorera. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Je vous ai dit que nous allions aborder sur la discipline. Nous allons prendre deux textes, un qui parle sur la douceur. Dans Galates au chapitre 6 et au verset 1er, il y a un verset qui nous parle de la douceur, car vous verrez qu'il y a tout un processus pour que la discipline soit exercée dans l'Église, c'est évident. Je pense que nous nous en doutions tous. Galates chapitre 6, verset 1er. Frères, si un homme vient à être surpris en faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. Dans un petit peu plus loin, dans la première épître de Paul à Timothée, c'est toujours Paul qui s'adresse à une catégorie de personnes qui ont été au-delà, bien sûr. 1 Timothée, chapitre 1er, verset 18. On va lire le verset 17, par rapport à un mot qui va introduire la prédication. 1 Timothée, chapitre 1er, verset 17. Au roi des siècles, immortel, invisible, seul Dieu soit honneur et gloire au siècle des siècles. Amen. La recommandation que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elle, tu combattes le bon combat, en gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. De ce nombre sont Hyménée et Alexandre, que j'ai livrés à Satan, afin qu'ils apprennent à ne pas blasphémer. Amen. Vous pouvez vous asseoir. J'ai parlé du Dieu invisible. Pourquoi? Je voudrais dire quelque chose qui va donner de l'importance à la discipline. Dieu est invisible. Le Seigneur Jésus est assis sur le trône. Vous êtes d'accord? Le Seigneur n'est plus sur la terre. Le Saint-Esprit agit par la puissance du Saint-Esprit. On ne le voit pas. Donc, la seule partie de Dieu que les gens voient sur la terre, c'est l'Église. Donc, ce sont les chrétiens. Le seul moyen pour les gens du monde de voir Dieu, c'est l'Église. Vous comprenez bien combien il est important que nous nous appliquions à rendre un bon témoignage. Parce que les choses de Dieu, c'est sérieux. Souvent, on a diminué le niveau et on a tout amené à la joie de la communion fraternelle. C'est une immense joie, la communion fraternelle. Oui ou non, Céline? Bon. Et c'est une joie d'avoir des frères et des sœurs à côté de vous? Ben oui. C'est une bénédiction. La communion fraternelle, c'est une bénédiction. La joie du salut, etc., etc. Mais il n'y a pas que la joie. C'est évident. Il n'y a pas que le bonheur. Il n'y a pas que la grâce. Il n'y a pas que tous ces bienfaits. Il y a le souci de connaître la volonté de Dieu. Si vous faites partie de ces gens qui cherchaient Dieu juste en lisant les psaumes, vous n'allez pas beaucoup grandir avec Dieu. Un chrétien, il veut connaître toute la parole de Dieu. Alors, c'est un sujet extrêmement délicat, extrêmement délicat. Beaucoup de pasteurs n'osent pas l'aborder pour la simple et unique raison qu'ils ont la crainte des hommes et pas la crainte de Dieu. Le problème serait réglé immédiatement si à la place d'avoir la crainte et la peur des gens, nous avions vraiment le respect des choses de Dieu. Un chrétien, Il représente Dieu sur la terre. C'est une lettre. La Bible parle, vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde, etc., etc. Dieu nous fait comprendre que nous devons, par notre témoignage, notre façon de vivre, etc., eh bien, parler de Jésus. Pas parler forcément en parlant, mais vous êtes une lettre lue. Quand les gens nous regardent, qu'est-ce qu'ils voient? Donc un chrétien, un véritable disciple, je ne parle pas des chrétiens de nom, un véritable disciple, celui qui aime Jésus, il veut être équilibré. Oui ou non? Est-ce que c'est une de vos prières, ça? Seigneur, fais de moi un chrétien équilibré. C'est important pour vous? Ben oui. Vous savez, hier, avant-hier, je discutais avec une chrétienne d'une autre assemblée qui me disait, dans l'église où je suis, il y a tellement de désordre que je ne peux même pas amener mes collègues, tellement ils seraient choqués par le désordre qu'il y a dans l'église. Et ce n'est pas la première fois que j'entends ce témoignage. Non, mais c'est archi grave. Elle a été voir le pasteur, et le pasteur lui a dit, ouais, mais j'ose pas, comment les gens vont réagir si je mets de l'ordre? Elle lui a dit, mais ça ne fait rien. Vous voyez la preuve que beaucoup de pasteurs ont plus la crainte des hommes que la crainte de Dieu. Donc, un chrétien, il doit chercher l'équilibre. Ce n'est pas évident. C'est pas évident. Un verset qui nous l'indique bien. Dans le livre des Proverbes, au chapitre 26, notez ces textes, méditez-les, apprenez-les, afin que vous ayez cette connaissance et cet équilibre. Ça peut faire partie de vos prières. Vous savez, David, qui était un homme selon le cœur de Dieu, quand il priait, il disait « Enseigne-moi le bon sens ». Enseigne-moi l'intelligence. Vous croyez qu'on peut le faire, ça? On peut demander à Dieu du bon sens? Ben oui, c'est évident. C'est où ça, les stagiaires? C'est où ce texte? Enseigne-moi le bon sens et l'intelligence. Dans le psaume, dont toi tu restes, toi tu es viré, le psaume 119, verset 66. Apprenez des versets par cœur. Je vais les persécuter, mes stagiaires, je vais les persécuter. Donc, accorde-moi, enseigne-moi le bon sens. Voyez, regardez dans le psaume, le proverbe 26. Il y a un verset qui indique bien combien c'est pas évident d'avoir de l'équilibre. Proverbe 26, verset 4. Ne réponds pas à l'insensé selon sa folie, de peur que tu ne lui ressembles toi-même. Verset 5. Réponds à l'insensé selon sa folie, afin qu'il ne se regarde pas comme sage. Vous voyez, c'est pas évident. Savoir s'il faut parler, savoir s'il faut se taire, comment agir, etc., etc. Oui ou non? C'est absolument, mais il n'y a que la sagesse de Dieu qui peut nous accorder le discernement, qui peut nous accorder d'avoir ce témoignage équilibré. J'introduis sur l'équilibre, parce que moi je suis profondément choqué lorsque je vois certains témoignages et des gens qui disent « je ne vais plus à l'église » parce que j'ai eu des témoignages. Alors bien sûr ils ont tort, ce n'est pas une excuse qui va passer lorsqu'ils vont se tenir devant Dieu. Mais il n'empêche, et c'est écrit, qu'un chrétien peut être une pierre d'achoppement. C'est-à-dire que c'est les chrétiens qui éloignent les gens de Dieu. J'en ai déjà parlé, c'est une affaire terrible. Pourquoi? Eh bien parce qu'on n'a pas exercé cette fameuse discipline dans l'église, parce qu'on a peur de perdre du monde, etc., etc. C'est pas évident d'être rempli de douceur. Si vous lisez d'autres textes, Tite 1.13, reprends-les sévèrement. Si on prenait tous les textes, vous pourriez me dire, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Reprends, censure, exhorte, etc. Le même qui a écrit qu'il avait livré Hyménée et Alexandre à Satan, c'est le même qui a écrit « L'amour pardonne tout ». Vous savez où c'est ça? L'amour excuse tout. C'est bien. Vous êtes tous stagiaires à partir d'aujourd'hui. Alors, c'est vrai ça ou c'est pas? Qu'est-ce que ça veut dire? L'amour excuse tout. Ben voilà, c'est go. C'est réglé. Cassez pas la tête. Mais je caricature, mais je peux vous dire que ça marche comme ça. L'amour excuse tout. Mais est-ce que ça veut dire que l'amour excuse le péché? Et voilà. Le péché, ça se règle. Bien sûr qu'on doit passer sur plein de choses, mais c'est évident. Mais l'amour, ça se règle. Quand je préparais cette prédication, il y a un verset qui m'est venu dans le psaume, dans Ésaïe 64, où il est dit, le péché, j'ai marqué d'ailleurs, je crois. Il est dit, le péché, on en souffre longtemps. C'est écrit, Ésaïe 64, je ne sais plus quel verset. Le péché, on en souffre longtemps. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, tant que ce n'est pas réglé, eh bien, on en souffre. Et voilà pourquoi tant de chrétiens souffrent, parce qu'ils n'ont pas réglé le péché dans leur vie, alors que ça pourrait être réglé immédiatement. Combien de temps il faut pour régler un péché? Combien de temps? Le temps, voilà, Madame Delabre, pour une fois, c'est bien. Le temps de demander pardon. Eh oui, si vous croyez au pardon. Mais c'est vrai ce que vous dites, Madame Delabre. Il y a des gens qui ils mettent 10 mois à se pardonner. Ils ont commis un péché. Pardon, Seigneur, je demande pardon. Mais eux, ils se pardonnent au bout de 6 mois parce qu'ils ont besoin de se punir un petit peu. Je me demande d'où ça vient, ça. Ça vient peut-être des atavismes de certaines religions, mais laissez-moi vous dire que quand on a demandé pardon à Dieu, il pardonne, à condition que ce ne soit pas du cinéma. Alors, le péché, il faut le régler. Alors, il faut le régler d'une manière sérieuse, sans juger. De notre côté, il est dit, ne jugez pas. C'est Jésus qui l'a dit, Matthieu 7. Ne jugez pas, et vous ne serez pas jugés. Soyez miséricordieux, comme votre Père Céleste est miséricordieux. Alors, à partir de ces versets, que l'on n'a pas comparé au reste de la parole de Dieu, on est devenu des pasteurs ou des chrétiens déséquilibrés, des églises déséquilibrées, et vous voyez le résultat, comment les gens se moquent des églises, comment les gens se moquent des religions, et ils ont raison. Ne les jugeons pas trop vite. Ils ont raison. Ils sont furieux parce qu'ils n'entendent pas la vérité, quoique, des fois, ils sont encore plus furieux quand ils l'entendent. Mais il n'empêche que, quelle que soit leur réaction, nous devons de rendre un bon témoignage et de savoir ce que Dieu dit. Et moi, je suis peiné lorsque je vois la quantité de pasteurs qui n'osent pas, avec amour, avec compassion, avec vérité, exercer la discipline dans l'Église. Alors, ce sujet, on l'a abordé à une réunion de responsables le jeudi soir. Et c'est plusieurs frères qui m'ont dit à l'issue de cette réunion, « Monsieur Gault, ce que vous avez enseigné ce soir-là, vous devriez le partager avec le reste de l'Église, parce que les chrétiens ont besoin d'entendre ces choses. » Alors je le prends d'une manière différente, mais il n'empêche qu'il faut lire la Bible. Mais je suis malheureux, moi, quand je vois des chrétiens qui disent « Ah, mais moi, j'ai jamais lu ça. » 3 ans de conversion, ils cherchent le livre des Proverbes dans le Nouveau Testament. Ça me fait pas rire. 3 ans de conversion, chercher le livre des Proverbes dans le Nouveau Testament. C'est comme le gars qui fait de la cuisine, vous voyez, et qui met 3 heures pour trouver la louche pour la soupe. Il ne sait pas dans quel casier il doit en faire souvent de la soupe. Alors d'un côté, il ne faut pas juger. De l'autre, alors on va prendre un problème, parce qu'on va l'aborder bientôt le mercredi soir, le mardi soir aux études bibliques, dans 1 Corinthiens, au chapitre 5. Il y a un problème, il y a un gros problème. Pourtant, c'est une. Mais regardez le contexte. C'est vraiment l'Église du Seigneur. C'est des gens qui aiment Dieu. C'est des gens qui ont reçu tous les dons. C'est une Église, c'est un truc de fou. Et en même temps, il ne règle pas certains problèmes. 1 Corinthiens chapitre 5. Alors, il faudra m'excuser ce matin si je prends un peu plus de temps que d'habitude. Mais c'est important, mes frères et sœurs. Si ce n'est pas important pour vous, je peux vous dire que c'est important pour des centaines de personnes qui écoutent sur Internet et qui ont besoin de comprendre ce qu'est la discipline dans l'Église. 1 Corinthiens, chapitre 5. On entend dire généralement qu'il y a parmi vous de la débauche. Et une débauche telle qu'elle ne se rencontre même pas chez les païens. C'est au point que l'on devoue à la femme de son père. Et vous êtes en fait d'orgueil, et vous n'avez pas été dans l'affliction, afin que celui qui a commis cet acte soit ôté du milieu de vous. Je vous rappelle que c'est celui qui a écrit 1 Corinthiens 13 qui écrit. Pour moi, absent de corps, mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé, comme si j'étais présent celui qui a commis un tel acte. Au nom du Seigneur Jésus, vous et mon esprit, étant assemblés avec la puissance de notre Seigneur Jésus, qu'un tel homme soit livré à Satan. Alors ne vous inquiétez pas, je vais vous expliquer ce que ça veut dire. Qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. C'est bien à tort que nous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Faites disparaître le vieux levain, etc. Après, la suite, regardez bien. La suite, c'est un truc de fou. Regardez bien. Verset 9. Je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir de relation avec les débauchés. Non pas de manière absolue avec les débauchés de ce monde, sinon demain tout le monde arrête de travailler. Donc, il faut aimer les gens avec qui vous travaillez, même si ce sont des gens complètement paumés. Ou avec les cupides, les ravisseurs, les idolâtres. Autrement, il nous faudrait sortir du monde. Maintenant, écoutez bien, mes frères et sœurs. Maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir de relation avec quelqu'un qui, se nommant frère, est débauché ou cupide ou idolâtre, ou outrageux ou ivrogne ou ravisseur, de ne même pas manger avec un tel homme. Qu'est-ce que j'en ai fait à juger ceux du dehors? Ce n'est pas ceux du dedans. N'est-ce pas ceux du dedans que vous avez à juger? Pour ceux du dedans, pour ceux du dehors, Dieu les juge. Ôtez le méchant du milieu de vous. Vous avez vu que c'est sévère. Alors c'est un problème que les Corinthiens ne réglaient pas. Il y avait un gars dans l'église qui couchait avec sa belle-mère. Le père devait être certainement mort, il couchait avec la belle-mère. Aujourd'hui, le problème du concubinage, tout ça, des relations sexuelles hors mariage, ça ne pose pas de problème. Il y a même des églises où on baptise les gens qui vivent dans le concubinage. Ne nous étonnons pas que Jésus soit dehors, à la porte ou à 3 km, en train de ne plus pouvoir même frapper. Alors on va expliquer ces choses, parce que tout ce que l'on fait, même si je le dis avec fermeté, doit être fait avec amour et compassion. Mais ne nous étonnons pas que certains chrétiens dans le péché soient restés dans le péché, parce qu'on ne les a pas disciplinés comme il aurait fallu le faire. Donc d'un côté, ne jugez pas. Surtout, il a dit, ne jugez pas votre frère. On ne sait pas pourquoi un frère traverse tel ou tel truc. Il y a des choses, c'est pas grave. Il y a des épreuves. Est-ce qu'on peut juger l'épreuve que quelqu'un traverse? Un frère est tombé en dépression. Est-ce qu'on peut dire, oh, s'il est en dépression, c'est que ça ne doit pas aller? Est-ce qu'on peut le dire, ça? Ben non. Il y a des trucs que Dieu permet. Et c'est bien. Mais le péché, il faut le juger. Il faut l'évaluer. Il faut absolument le régler. Alors, quand vous voyez, vous lirez 2 Corinthiens, chapitre 2, et vous allez voir qu'ils ont... Vous voyez l'équilibre? Ils ont été trop sévères. On va le faire. Regardez. Dans la deuxième épître aux Corinthiens, Paul leur écrit. C'est Dieu qui leur écrit. Et regardez ce qu'ils font. Regardez. Mais il faut lire la Bible, mes frères et sœurs. Il faut lire la Bible. Dans 2 Corinthiens, dont Paul revient sur cette affaire. 2 Corinthiens, chapitre 2, verset 4. Ils reviennent donc sur le problème de ce gars qui a été mis en discipline. Alors là, ils l'ont fait, mais regardez. 2 Corinthiens, chapitre 2, verset 4. « C'est dans une grande affliction, le cœur angoissé, avec beaucoup de larmes, que je vous ai écrit. Non pas afin que vous soyez attristés, mais afin que vous connaissiez l'amour extrême que j'ai pour vous. Si quelqu'un a été une cause de tristesse, ce fameux gars en question, ce n'est pas moi qui l'a attristé. C'est vous tous, du moins en partie, pour ne rien exagérer. » Il suffit pour cet homme du châtiment qui lui a été infligé par le plus grand nombre. En sorte que vous devez bien plutôt lui pardonner et le consoler, de peur qu'il ne soit accablé par une tristesse excessive. Je vous exhorte donc à faire acte de charité envers lui, voyez, etc. Au verset 11, afin de ne pas laisser à Satan l'avantage. Voyez, alors, ils ne le reprennent pas, et quand ils le reprennent trop, et ils manquent de pardon envers lui. Est-ce que vous comprenez? Voyez, ça nous prouve que les chrétiens, même s'ils ont tout reçu, ils ont du mal à trouver l'équilibre. Mais nous, on n'a pas d'excuses, parce qu'on a tout le canon des Écritures. Eux n'avaient pas ces lettres, ils n'avaient pas encore tout ce que nous on a. Est-ce que vous vous rendez compte le privilège que c'est d'avoir la Bible en français, le canon des Écritures en entier? C'est une immense bienfait. Donc il faut apprendre à se discipliner, mais si quelqu'un demande pardon, il faut le pardonner. Et si on voit les fruits du pardon, vous comprenez ce que je veux dire? L'exclusion dans la Bible, c'est une mise en discipline, ce n'est pas une exclusion définitive. On te met dehors et voilà, t'es viré. Ça ne marche pas comme ça. Quand on met quelqu'un en discipline, c'est tout le temps dans le but de le gagner. Et si on est trop dur avec quelqu'un, eh bien on va le décourager. Et oui. Et pourquoi je vous ai lu ce verset au début, que Dieu honorait ceux qui le servaient? Nous voulons que Dieu nous honore? Dans une église, on n'est pas là focalisé sur le nombre. On doit être attiré par le fait d'honorer le Seigneur. Et vous avez bien commencé ce matin. Le meneur de chant, d'une manière péremptoire. Il est où notre Jonathan Blanc? Il est où? Il est là. C'est bien. À expliquer de manière claire que quand on louait le Seigneur, il fallait le faire courtement. Apparemment, tout le monde a bien compris. Ça s'appelle l'ordre et ça s'appelle la bienséance. Parce que ça prouve que je respecte les autres. C'est pas vrai? C'est vrai ou c'est pas vrai? Si je prie 4 minutes, je prive 5 ou 6 personnes de louer le Seigneur. Ça s'appelle l'ordre et la bienséance. C'est bien, Jonathan. Dieu honore pas ceux qui vont à l'église. Dieu honore ceux qui l'honorent. Et un chrétien, s'il veut être fidèle quand Jésus va revenir, parce que laissez-moi vous dire que le Seigneur va bientôt revenir. D'ailleurs, je vous exhorte à lire Ézéchiel 38, Ézéchiel 39. Je vous ferai une étude sur Gog et Magog pour que vous compreniez ce qui est en train de se passer au Moyen-Orient. Je pense que beaucoup de chrétiens sont dans le flou à ce sujet. Je crois avoir reçu suffisamment par rapport à ces deux chapitres pour vous expliquer ce qui est en train de se passer. Je reviens à mon sujet. Nous sommes dans un monde où les gens ne supportent plus la saine doctrine. Vous le savez, les gens ne supportent pas la doctrine. Ils vont à l'église pour se mettre Dieu de leur côté, mais après, chacun de son côté, et je peux vivre dans le péché. Dieu, j'espère que Dieu me pardonne. Ça ne marche pas comme ça, mes frères et sœurs. Il faut faire ce que Dieu nous demande. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, si nous manquons de sagesse, demandons-la. Est-ce que Dieu vous la donnera, la sagesse? Ben oui. C'est écrit où, ça? Demandez si quelqu'un manque de sagesse. C'est ouf. Ouais, non, mais Jacques. Jacques 1, verset 5, je crois. Si quelqu'un manque de sagesse, demandez-la au Seigneur. Demandons-la. Seigneur, donne-moi de la sagesse. Tu vois combien j'ai besoin. Je me rappelle de cette sœur qui me disait dernièrement, mon mari, je lui dis toujours, viens à l'église, on fait que se disputer parce que je veux qu'il vienne à l'église. Mais je dis, mais vous n'avez pas lu dans l'épître de Pierre qu'une femme, elle peut gagner son mari dans le silence. C'est vrai que peut-être c'est difficile, mais elle peut gagner son mari dans le silence. 15 jours après, son mari, il est venu, il a pris le baptême. C'est un homme de Dieu aujourd'hui. Vous ne croyez pas que c'est merveilleux? Mais lisons la parole de Dieu. Ah, monsieur Gauche, j'avais jamais lu. Mais lisons la parole de Dieu. La sagesse, elle vient par la prière, par l'inspiration, mais elle vient aussi par la connaissance de la parole de Dieu. Alors, on va voir au moins 6 étapes. 6 étapes qui sont indiquées dans la parole de Dieu pour exercer la discipline dans l'Église. Alors, la première, on l'a lu dans Galates, c'est la douceur. La douceur. Frère, si un homme vient à être surpris en faute, redressez-le avec un esprit de douceur. Voilà. Est-ce que c'est toujours facile d'avoir de la douceur? Ouais. Mes frères et sœurs, il faut de la douceur. Il faut dire les choses avec douceur, comme je le fais. Ouais, mais vous savez, si des fois on n'est pas ferme, les gens ils écoutent rien. Mais il faut de la douceur. Redressez-le avec un esprit de douceur. C'est quelque chose qu'il faut également demander. Parce que ça fait partie des fruits de l'esprit. La douceur, je ne parle pas de la douceur humaine, ça m'est arrivé déjà. De voir des frères qui me disent « Ah, monsieur Gonon, moi je ne vais pas reprendre quelqu'un, moi je suis doux de caractère, je ne peux pas reprendre quelqu'un. » Si la douceur qui vous caractérise ne vous permet pas de reprendre quelqu'un, ce n'est pas de la douceur spirituelle, c'est de la faiblesse. Vous me suivez? La douceur, elle ne peut que nous amener de toute façon à obéir à Dieu. Je vous dis ça parce que je le vois souvent, mais moi, vous savez, je n'ai pas ce caractère, moi. Je suis trop doux. Quand quelqu'un est doux selon Dieu, il obéit à Dieu. Croyez-moi. Mais c'est important d'avoir de la douceur. Dans 2 Timothée chapitre 4, parce que je voudrais aussi donner 2 ou 3 exemples, c'est simple, ce que je vais vous dire, c'est simple. Quand vous avez lu la Bible, vous savez que c'est tout simple. 2 Timothée, chapitre 4, au verset 2. Donc c'est des épîtres pastorales, c'est en plus adapté au sujet. 2 Timothée chapitre 4 verset 2, prêche la parole, insiste en toute occasion. Alors insiste en toute occasion, je le répète, ça ne veut pas dire que si quelqu'un n'est pas bien disposé, ce n'est pas une occasion. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'il y a des gens qui cassent les pieds, excusez-moi l'expression, aux gens, c'est une occasion. Non, l'occasion c'est que si moi je n'ai pas envie, mais si en face il y a vraiment une occasion, il faut que je le fasse. C'est ça que ça veut dire. Vous comprenez mes frères et sœurs? Il y a des gens, ouais, je lui dis, viens à l'église, j'insiste, en toute occasion. Mais mes frères et sœurs, soyons sérieux. Si demain vous prenez le métro et que vous voyez quelqu'un qui vous parle du suicide, vous n'avez peut-être pas envie de lui parler. Est-ce que ça peut arriver, ça? Eh oui. Mais ce n'est pas une occasion. C'est ça que ça veut dire. Tiens, j'ai un évangile, le gars, là, il est complètement désemparé. Il faut que je lui parle. Il y a une femme un jour qui est venue, je me souviens, ça m'avait choqué. Jeudi après-midi, je vois une femme arriver, elle était hagarde. Le matin, en se levant, dans le bus, une dame lui donne un évangile. Écoutez, j'ai à cœur de vous donner cet évangile. Elle prend le métro, pareil. Une dame s'assoit à côté d'elle. Madame, j'ai à cœur de vous dire, occupez-vous de votre âme, lisez cet évangile. Elle arrive chez le docteur, elle s'assoit dans la salle d'attente. Une dame va s'asseoir à côté d'elle. Madame, lisez l'évangile, vous en avez besoin. Elle est arrivée ici. Je crois qu'il faut que je m'occupe de mon âme. J'ai dit, moi je le crois aussi. Je ne l'ai jamais revue. Mais je crois que c'était une occasion. Dieu lui a donné un rendez-vous à cette femme ce jour-là. Oui ou non? Et ça, c'était une occasion. Mais l'occasion, si la personne n'a pas envie, ne la bassinez pas, ne la brevez pas. Rendons-nous par notre comportement un bon témoignage, mes frères et sœurs. C'est important. Donc, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte, avec toute douceur, c'est pour ça que j'ai repris le verset, et en instruisant. La douceur, c'est une chose, il faut que la personne se sente aimée par rapport à son comportement, et lui dire, mais madame ou mon frère, il y a eu ceci, il y a eu cela, on tient, etc. Et en instruisant, il faut dire, mais quand même ma sœur, quand même, ma sœur, dans la Bible, il est parlé d'ordre. Enfin, je ne sais pas. Il est parlé de ne pas choquer son frère, de ne pas troubler l'Église. Il y a des gens qui ont troublé l'Église. Il y a des églises qui sont bloquées depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, parce qu'il y a des gars, des hommes, des femmes, des frères ou sœurs, entre guillemets, qui par leur comportement, troublent l'Église. Mais c'est ça, ça fait mal au cœur. Oui ou non? Moi, je suis placé, écoutez-moi bien, peut-être que dans l'Église, franchement, je suis le mieux placé pour comprendre ces choses. Il y a un frère qui s'est converti, je crois qu'il est là parce qu'il est en vacances. Il s'est converti il y a quelques temps ici, et il est parti en Allemagne. Il est ingénieur, il est parti en Allemagne, et je lui donne l'adresse, je prends les assemblées de Dieu, je regarde, assemblée de Dieu à l'étranger, Allemagne, tac, vous avez une assemblée de Dieu, là, allez-y. Il m'appelle 15 jours après, il me dit, monsieur Gou, ils sont fous, ils font que crier, ils sont fous. Ben regardez, une église baptiste et tout, il me rappelle, quelques jours après, monsieur Gou, j'ai trouvé une église équilibrée. Mes frères et sœurs, c'est sérieux. Et le diable, il se frotte les mains. Une église, elle doit rendre un bon témoignage. Les gens, ils ne doivent pas nous prendre pour des fêlés, pour des malades. Les journalistes, ils se font des gorges chaudes de faire des reportages dans des églises évangéliques. Et les évangéliques, tu as vu le reportage, on est passé à la télé, pour se moquer de nous. Quelle honte. Moi, on m'a demandé une fois, une journaliste de TF1 m'a téléphoné, monsieur Gau, je voudrais faire un reportage sur Dieu et le diable. Je voudrais venir dans votre église filmer. J'ai dit, hors de question. J'ai dit, hors de question, vous allez prendre les deux ou trois farfelus qu'il y a dans l'église et vous allez passer leur témoignage à la télé. Et moi, c'est hors de question. J'ai dit, d'ailleurs, et vous, qu'est-ce que vous connaissez sur Dieu et sur le diable? J'ai dit, vous croyez en Dieu? Non, je ne crois pas. Et j'ai dit, vous allez faire un reportage, écoutez, venez à Toulouse, je vais vous expliquer comment ça marche, et puis après, on reparlera du reportage. Ah bon, c'est quoi? Oui, clac. Non, mais franchement, on se moque de nous, mes frères et sœurs. On se moque de nous, et ils ont raison. Quand on se moquait du peuple d'Israël, je peux vous dire qu'ils avaient raison. Ne jetons pas les choses. Et si nous avions cette grâce de dire, Seigneur, donne-moi de la douceur, donne-moi d'instruire quelqu'un qui trouble. Moi, j'ai repris, je ne sais pas combien d'heures, ici, peut-être une trentaine. Alors, vous allez voir que quand on honore la parole, écoutez bien, c'est imparable. Quand on honore la parole, Dieu nous honore. Ça fait que ce soit au début, à la douceur, ou que ce soit dans les autres étapes, à partir du moment où on honore Dieu, Dieu intervient. Mais il faut instruire. Là, ce n'est pas l'objet de la prédication. Mais il y a assez de versets pour que les anciens, les sœurs, les frères, les diacres, les diaconesses puissent dire, tiens mon frère, voilà, ceci n'était pas correct. Parce qu'il y a des gens, alors je ne parle pas d'une prophétie, est-ce que quelqu'un pourrait se tromper dans une prophétie? Ce n'est pas pour ça qu'il a troublé l'Église. On va dire, voilà, tu sais ceci, cela. Je ne parle pas des erreurs, je parle du péché. Des gens qui troublent le corps de Christ. Des gens qui ne veulent pas mettre leur vie en règle. Mais c'est grave. Hein? Je ne sais pas si vous calculez l'affaire. Je ne sais pas si c'est la première fois que vous entendez parler de discipline, mais moi je peux vous dire que si Dieu nous résiste, c'est parce qu'on n'a pas honoré sa parole. Dans l'instruction, je pourrais passer 2 ou 3 heures à vous parler de l'instruction, mais ce n'est pas le but. Troisième point, dans Matthieu au chapitre 18, en plus, ça c'est M. Olé qui m'a aidé à le comprendre, dans Matthieu 18... Vous allez comprendre l'importance du contexte. Dans Matthieu 18, nous répétons en boucle, dans nos églises, à juste titre, nous répétons en boucle le verset 19 et 20. Vous êtes d'accord? Vous y êtes? Nous répétons en boucle, nous le faisons, nous aimons le faire, c'est bien. Je vous dis d'entre vous que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Et on le répète ça. Si deux d'entre vous s'accordent, etc. Car là où deux ou trois sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Vous êtes d'accord? Nous sommes d'accord. C'est la vérité. Si vous n'êtes pas d'accord, de toute façon, vous êtes contre le Seigneur. Mais il y a un contexte. Et le contexte de la présence de Dieu dans l'Église, c'est la discipline. Alors, verset 15, troisième étape. Si ton frère a péché, je vous rappelle que c'est le Seigneur Jésus qui parle. Si ton frère a péché, je ne parle pas d'erreur, de faiblesse, de manquement. Attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné. Le but, c'est toujours de gagner, mes frères et sœurs. Tu as gagné ton frère. Si, imaginez, il y a un frère qui fait chanter, vous apprenez qu'il vit dans l'adultère. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut le laisser continuer, il faut le gagner. On va le gagner, laissons-le dans le péché. Il faut le gagner. Moi, mais si vous savez tout ce que j'ai entendu, vous savez, il y a de quoi pleurer. De quoi pleurer. Mais si je vous cite tous les... Vous ne le croirez pas de toute façon. Mais mes frères et sœurs, c'est sérieux l'Église. Il faut honorer la parole. Si quelqu'un me sert qu'il me suive. Si quelqu'un me suit et qu'il obéit, le Père l'honorera. Et nous devons le devoir. Alors après, il faut faire attention de pas jouer les oraux ou les... Je sais pas, ou les Schwarzenegger. On n'est pas là-dedans. Hein. On n'est pas là-dedans. Si ton frère a péché, reprends-le. Entre toi et lui seul. Il faut le faire d'une manière discrète. Discrète, on est au courant. Voilà, moi souvent... Alors je voudrais remercier les jeunes frères de l'Église qui ces derniers mois sont venus me voir par rapport à des hommes nouveaux qui sont venus ici, qui ont eu un comportement déplorable avec des jeunes filles. Et je peux vous dire qu'on s'en est occupé. La première démarche, elle s'est vite enclenchée avec la troisième. Mais laissez-moi vous dire que, moi, autant je suis d'accord que les jeunes lient amitié avec les jeunes filles. Est-ce que c'est bien l'amitié dans l'Église? Est-ce que c'est bien? Il y a des jeunes, ils n'osent pas des fois lier amitié. Je dis, mais au contraire. C'est une chose de venir pour chercher une fille, pour, comme on dit, draguer une fille. En parlant de mon tien, il y a 15 jours, la dernière fois où j'ai prêché, vous vous souvenez que dans ma ferveur, j'ai dit quelque chose. J'ai dit, je suis à deux doigts de dire un mot vulgaire. Vous vous rappelez? Bon, alors écoute, je me suis trompé. Mon fils m'a repris, ma femme. Le repas a eu du mal à passer. Alors, ils ont eu raison. Merci Isabelle, merci Lucas qui est à Montauban ce matin. Écoutez-moi, il est hors de pensée que je dise un mot vulgaire. C'était un mot familier. Et mon fils m'a dit, papa, tu ferais faire des progrès. Bien, il est hors de question que j'emploie des mots vulgaires. C'était un mot familier. Voilà, je ferme la parenthèse, je le dis parce que certaines personnes pourraient dire après, voilà, Monsieur Hugo doit dire des mots vulgaires. Non, je suis correct. Si ton frère a péché, deuxième étape, s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de deux ou de trois témoins. Vous voyez le souci, le gars il n'écoute pas, eh bien on le prend avec un frère, deux frères, une diaconesse qui est au courant de la situation, des sœurs. Y a pas... c'est sérieux cette affaire, vous voyez, afin que l'affaire se règle. Ça, c'est la quatrième étape. Cinquième étape, s'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église. Et s'il refuse aussi d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. Vous voyez, mes frères et sœurs, et c'est dans ce contexte-là que Dieu dit ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel, c'est qu'en deux ou trois sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Vous savez, quand j'ai pris l'église de Grouillet, il y a 26 ans, j'avais que 30 ans. Et je dis ça parce qu'il y a des pasteurs qui disent, oui, mais moi, je n'avais presque pas d'expérience, je connaissais la parole. Quand j'ai pris l'église de Grouillet, il y a des Grouilletois ici qui pourront confirmer ou infirmer ce que je dis. Quand je suis arrivé à Grouillet, il y avait une vingtaine de chrétiens. L'église était dans le trouble le plus complet. Elle dépendait de la caisse de la région depuis une dizaine d'années. L'église était vide. L'église était découragée, défaite. Et il y avait une dame, je ne peux pas dire une sœur, une dame qui par ses prophéties, par ses dons, faisait peur aux gens. Et il y avait bien sûr longtemps qu'il n'y avait pas eu un baptême, et il y avait longtemps qu'il n'y avait pas eu une personne nouvelle dans l'église. Plus personne n'osait inviter un frère, un ami, à venir écouter la parole de Dieu. Un des premiers dimanches, un gars arrive. Je vous le dis parce que c'est comme ça que ça marche. Un gars, il arrive, un gars bien, si je m'appelle, c'était un ingénieur, il travaillait dans une boîte, il était en même temps musicien. Il arrive, ça faisait un mois qu'on était là, ça faisait des années qu'il n'y avait pas eu un nouveau, et il s'assoit, comme par hasard, cette brave femme s'assoit derrière lui. Je n'exagère pas, vous comprenez bien que Dieu bénit pas l'exagération. Elle s'accroche à son fauteuil, à son dossier. Blablabla. Elle commence à crier, à hurler. Ah. Moi, j'étais là, on avait tous les poils des bras hérissés. Première église que je prenais, je savais, bon. Sur le coup, j'ai rien dit. J'ai dit, il faut faire quelque chose. Je me suis renseigné, j'ai passé, je ne sais pas, un jour à me renseigner d'où venait ce gars. J'ai été le voir, j'avais fini par le trouver, j'ai dit, écoutez, monsieur tel, je viens vous voir pour vous demander pardon, pour le désordre qu'il y a dans l'église. Je suis confus, je suis peiné, je viens d'arriver, ça fait moi que je suis là, vraiment, j'ai honte, mais je vous promets que selon la parole de Dieu, je vais m'occuper de cette dame et la mettre en discipline. Ah, monsieur Gou, de toute façon, je ne serais jamais revenu si vous n'étiez pas venu me voir. Je reviendrai. Donc, cet homme, cette femme, j'ai commencé à aller la voir. Je dis, écoutez, madame Untel, je suis obligé de vous reprendre. Ah, oh, monsieur Gou, personne ne m'a jamais repris à moi. Il y a eu 5 pasteurs avant vous, il n'y en a pas un qui m'a rien dit, donc c'est vous qui avez tort. Ah, d'accord, j'ai compris. Mais par contre, quand j'ai mis cette dame en discipline et que j'ai téléphoné aux pasteurs, aux collègues, pour leur dire, vous savez, j'ai dû mettre madame Untel en discipline. Ah, monsieur Gou, c'est bien, vous avez bien fait. Il y a longtemps qu'on aurait dû le faire. J'accepte le fait que vous souriez parce que la façon dont je vous le dis prête à rire. Mais combien d'âmes mon père à cause de ça? Et ça a pris 8 mois et j'ai fait chaque étape 2 fois. Je manquais d'expérience, j'ai été la voir seule. Et je lui ai dit, mais franchement, vous n'avez pas vu, vous troublez l'église. Mais non, c'est vous qui n'entendez rien. Enfin, ça a été périlleux jusqu'au jour où on l'a mis en discipline. On l'a dit à l'église. Voilà, nous avons été obligés. Bon, les gens étaient bien sûr au courant, c'est une petite église. Elle est revenue un dimanche après-midi, elle est revenue, elle dit « Ouais, cet homme, c'est un menteur !» en pleine prédication. Elle dit « Écoutez, c'est pas grave, on va conclure la réunion et on va prier. » Elle s'est levée, elle m'a insulté, elle est partie, elle n'est plus jamais revenue, elle est morte quelques temps après, dans la misère. Si vous saviez comment cette femme, pendant des années, a troublé l'église, et le fameux ingénieur, il s'est converti, et écoutez bien, il a amené 16 personnes qui se sont toutes converties et qui ont toutes trouvé leur place dans l'église. Et je peux vous dire qu'à Grouillet, 3 ans et demi après, on était 130. Entre-temps, j'ai dû mettre 2 autres personnes en discipline, mais mes frères et sœurs, on a vraiment vu la main du Seigneur. Et cette petite église de ce petit village dans le Tarn, eh bien, je le dis parce que c'est, il faut le dire, vous comprenez bien que je n'ai pas envie de parler de mes expériences, mais je l'ai vécu. Il faut être sérieux. Dans une église, il ne faut pas regarder le nombre, il ne faut pas regarder, je ne sais pas moi, les projets, c'est bien. Jésus dit à une église, je connais tes œuvres, mais les œuvres, ce n'est pas ça le... Mais ton cœur. Et il y a des étapes. Et si nous honorons la parole, si on le fait avec cœur, vraiment avec cœur, si on le fait, Dieu intervient. Parce que Dieu est lié par sa parole. Est-ce que vous comprenez cette pensée? Dieu, il est lié par sa parole. Il est lié. Est-ce que vous comprenez? Quand il dit que là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux, il est lié, il est là. Je vais dire presque mot entre guillemets, mais il est presque obligé d'être là parce qu'il l'a promis. Ça ne veut pas dire qu'il va agir, mais il est là. Le Seigneur, il est là ce matin. Et il voit comment on écoute cette prédication. Si vous l'interprétez comme quelque chose de légaliste, mais si vous l'interprétez comme étant légaliste, c'est que vous n'êtes pas converti. Parce que quand on est converti, on accepte toute la parole de Dieu. S'il y a quelque chose qui n'est pas biblique, ben levez-vous et dites, monsieur Gau, ce que vous dites n'est pas biblique. Vous êtes déséquilibré dans vos propos. Vous pouvez le faire et me dire dans quel domaine je suis répréhensible, je l'accepterai. Mes frères et sœurs, c'est quelque chose d'absolument sérieux. Après, dis-le à l'Église, qu'il soit considéré comme un païen. Mais un païen, on ne le méprise pas. Vous voyez, ce qu'ont fait les Corinthiens, c'est qu'ils ont méprisé le gars qu'ils avaient mis en discipline. Un païen, un publicain, comment se comportent avec les païens? Est-ce qu'on les aime, les païens? Mais voilà. Donc, il faut aimer des personnes qui ont été mises en discipline, ne pas les rejeter. Et moi, je peux vous assurer que sur toutes les gens que j'ai dû mettre en discipline, eh bien, ils m'ont écrit plusieurs... Je me rappelle une année plus tard, la deuxième personne que j'ai mise en discipline, personne de sa famille venait. Personne ne venait. Et j'ai dû la mettre en discipline. Et quand j'étais à Tahiti, vous voyez, donc ça faisait quelques années après, je reçois un courrier, monsieur Gou, voilà, je tiens à vous demander pardon, vous aviez raison, tatati, tatata, je voudrais réintégrer l'église, je réalise combien j'étais, etc., etc., etc. Et cette femme, elle a été réintégrée. Et je l'ai vue dernièrement, mais je me suis réjoui de l'embrasser. C'est bizarre. Sa famille s'est convertie. La première chose qui s'est passée quand je l'ai mis en discipline, j'ai reçu un coup de fil de la fille. Elle me dit, monsieur Gou, enfin, on va pouvoir venir à l'église. Enfin, de l'ordre. C'est exactement ça. À quelques mots près, c'est exactement ce qui s'est passé. Mes frères et sœurs, c'est sérieux l'évangile. C'est sérieux. Alors, on ne peut pas parler d'exclusion. La mise en discipline, c'est tout le temps dans le but de gagner. Même le texte qu'on a vu tout à l'heure, quand Paul dit à Timothée, mais regarde, Hyménée et Alexandre, je les ai livrés à Satan afin qu'ils apprennent. C'est tout le temps dans le but d'enseigner, de corriger. La correction, c'est le mot châtier dans la Bible, ça veut dire corriger pour instruire. Donc c'est tout le temps le but de gagner. C'est pas dans le but de perdre. Et quand Paul dit « j'ai livré à Satan », ça veut dire « je les ai remis dans le monde ». Quand quelqu'un est vraiment dans le péché, qu'il veut rester dans le péché, eh bien on lui dit « écoute, tu, tu as plus ta place dans l'assemblée, ou alors tu te repens et tu restes, tu mets ta vie en règle. Moi, j'ai vu des gens qui l'ont fait. J'ai vu des personnes qui ont vraiment de suite compris l'importance de passer par une véritable conversion. D'ailleurs, à ce sujet, est-ce qu'il y a Cédric avec Astrid? Est-ce qu'ils sont là? J'aimerais que vous disiez un mot, juste un mot, par rapport à ce qu'ils ont vécu il y a 2 ans. Écoutez bien ce qu'ils vont vous dire. Écoutez bien. Vous allez voir comment on peut vite se perdre tout en étant chrétien, si vous comprenez ce qu'ils vont nous dire.
Bonjour à tous. Que le nom du Seigneur soit béni pour toutes choses. On va essayer de ne pas être trop long. Donc, quelque part, je connais Dieu depuis environ 8 ans. J'ai donné ma vie au Seigneur et il a changé bien des choses. Donc, comment vous dire, lorsque j'ai rencontré Cédric, on se connaît depuis 17 ans. C'était mon amoureux au collège et après il est parti en France et je suis restée en Guadeloupe. Donc j'ai fait mon petit bout de chemin, j'ai rencontré Dieu, je venais d'une famille catholique, mais j'ai connu Dieu et voilà, Dieu m'avait donné de le rencontrer vraiment, puisque avant je lui dirais que je le connaissais de manière intellectuelle, mais j'avais vraiment fait une vraie rencontre avec lui et ça a changé ma vie, je pense, comme pour beaucoup d'entre nous. Et il y a quelques années, Cédric et moi, on s'est retrouvés. Donc, je connaissais Dieu, j'avais reçu le baptême, j'avais fait le choix, j'étais engagée. Voilà, j'étais vraiment dans une dynamique spirituelle. J'aimais Dieu, je voulais le servir, j'allais à l'église, enfin voilà. Jusqu'à ce que je le rencontre et que je fasse le choix de vivre avec lui, de quitter la Guadeloupe, de venir à Toulouse et de vivre avec un homme sans union. Donc, je ne vous raconte pas. C'était là un aveuglement, puisque si vous voulez, j'étais chrétienne. Mais je devenais un obstacle dans la croissance spirituelle de Cédric. J'étais dans le péché, puisque je vivais avec un homme sans union. Vous comprenez bien que Dieu n'honore pas le péché. Et un jour, un dimanche au culte, l'Esprit de Dieu m'a touchée. Il m'a dérangée. Dieu m'a dit, marie-toi, n'attends pas, puisqu'on priait pour le mariage, donc les fiançailles sont arrivées, mais je vivais toujours avec un homme sans union, j'étais chrétienne, il n'avait pas reçu le baptême, c'était du n'importe quoi, et je déshonorais mon Dieu, vraiment, et j'aimais Dieu, mais je le déshonorais, donc l'obéissance c'est l'amour, donc je suis rentrée chez moi, pleurant parce que je ne savais pas comment faire. J'étais en panique, j'avais personne, ma famille en Guadeloupe, comment organiser un mariage, comment faire. Et Dieu a fait. Un mois après, on était mariés. Je n'en avais rien, mais on s'est mariés. Et Cédric...
Donc, à la suite du dimanche où Dieu avait parlé à Astrid, donc la voyant aussi dans un état déplorable, on va dire, un mardi, je suis revenu seul, un mardi soir, et j'ai vu M. Go, et j'ai demandé à M. Go de me convertir. J'ai dit, M. Go, convertissez-moi. Oui, priez pour que je me convertisse. Et M. Go a dit, je veux bien prier pour vous, mais je ne pourrais pas vous convertir. C'est à vous de vous convertir, de faire le choix de vous convertir. Donc sur le moment, je dis, pourtant c'est notre pasteur, il doit avoir pouvoir faire quelque chose. Il me dit, non, moi je peux prier pour vous Cédric, mais c'est tout, à vous de faire le choix. Et ben, une semaine après, j'ai fait le choix de me convertir, de prendre mon baptême, et un mois après on s'est marié à la mairie. Voilà. Amen.
C'est pas une semaine après, c'est le soir même. Non. C'est le... Vous ne rappelez pas?
Oui, on nous a dit...
Elle a prié, pour que je... Non, j'ai dit non, je ne prierai pas. En vérité, je vous ai dit non, je ne prierai pas pour que vous vous convertissiez. J'ai dit convertissez-vous. Et c'est là qu'on me dit quand? Eh bien, quand vous voulez. Vous rappelez?
Hein?
Et il m'a dit, eh bien maintenant. Et on a été à côté, il a prié, il a pleuré, il a dit je vais mettre ma vie en règle, je vais obéir. Ça fait 2 ans et je peux vous dire qu'ils ont obéi. Vous pouvez retourner à votre place. Mais mes frères et sœurs, les jeunes là, qui n'étaient pas convertis, on ne va pas prier, on prie pour vous. Mais c'est à vous de vous convertir. Et c'est à vous de dire, je veux céder à la conviction de péché. Parce qu'écoutez, si vous écoutez la parole de Dieu, à un moment donné, vous serez convaincu de péché. Astrid a été convaincue de péché, mais elle a reconnu que son témoignage était lamentable parce que c'était une pierre d'achoppement pour ce garçon. Et, ouais, et c'est ça, ça c'est un aspect de l'amour. Mais mes frères et sœurs, quand quelqu'un décide volontairement d'être dans le péché et qu'il a une responsabilité dans la Bible, dans l'Église, eh bien le Saint-Esprit n'approuve pas. C'est pour ça qu'il faut faire attention avec les chrétiens qui vivent dans le péché. Il faut les aimer, mais il faut faire attention de ne pas... Moi, je ne les appelle pas frères. Des fois, on voit des gens qui reviennent, ils sont dans le péché. Ah, bonjour frère. Je dis, bon, c'est une erreur de langage. Mais je leur dis, non, vous n'êtes pas un frère. Alors, vous allez me dire que je suis trop sévère? Peut-être, mes frères et sœurs. Ça va loin, cette affaire. Et c'est à chacun de nous de prier, en fonction de notre maturité, de dire, aide-moi, Seigneur, aide-moi à accueillir les gens, aide-moi à faire ce que j'ai à faire. On sait les choses. Alors après, il y a toute cette sagesse. Regardez, si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. Quand Saül a péché, de suite, Samuel lui est tombé dessus, tu es cet homme-là, etc. De suite. Il a mal réagi, il n'a pas été réhabilité. Quand David a péché, et le péché de David était 100 fois plus grave que le péché de Saül. Saül, lui, l'a épargné un roi, un païen, pour l'avoir comme trophée de guerre dans ses géoles. Il a épargné quelques agneaux et quelques bœufs pour soi-disant faire un sacrifice à l'Éternel. Il avait désobéi. Mais ce n'est pas grave, ça. Mais cet homme n'a pas été réhabilité. Et il a terminé en se suicidant, en consultant une sorcière. C'était pourtant le meilleur d'Israël. David, lui, cet homme selon le cœur de Dieu, qui n'était pas à sa place, qui n'a pas veillé, etc. Et un jour, vous savez ce qu'il a fait? Il a couché avec la femme d'un de ses officiers. Il l'a mis enceinte. Et quand il a appris qu'elle était enceinte, il l'a fait tuer, parce qu'il était à la guerre, avec un stratagème vraiment diabolique. Il a fait tuer, Uri. David. L'homme selon le cœur de Dieu. En même temps, ça nous montre que même si on est droit devant Dieu, il peut nous arriver des erreurs. Dieu le savait. Combien de temps Dieu a mis pour le reprendre? 1 an. Vous voyez la sagesse? Nathan a été le voir 1 an après. C'est pour ça que si ton frère a péché, va et reprends-le, ça ne veut pas dire qu'il faut y tomber à bras raccourcis le lendemain. Il faut prier, Seigneur, aide-moi. Mes frères et sœurs, c'est sérieux, parce que le but, c'est que Dieu nous honore. Mes frères et sœurs, oui ou non? Parce que je peux vous dire que si on obéit à Dieu, quand vous amènerez un de vos fils, parce que le problème, la conséquence, elle est là. Vous avez des enfants qui sont inconvertis. Vous n'avez pas envie qu'ils viennent peut-être cet après-midi, mardi, jeudi, dimanche prochain. Vous n'avez pas envie qu'ils soient convaincus de péché? Moi, quand Astrid m'a raconté son témoignage et que Cédric, ils sont venus me voir, moi, je bénis le Seigneur. C'est pas ça que vous voulez? Votre maman, elle n'était pas contente là-bas, aux Antilles? Mes frères et sœurs, c'est sérieux, l'Église. L'Église, pour beaucoup de gens, écoutez, moi, je caricature, mais c'est un petit club de chrétiens sauvés. On est sauvés, c'est super. On est dans une association culturelle. Quel titre elle porte? Assemblée de Dieu? Ah, la mienne, c'est Église chrétienne. Oh, c'est pareil. Plus, ça n'a aucune importance. Pour beaucoup de chrétiens, c'est pour ça d'ailleurs qu'ils ne combattent pas le bon combat. Pourquoi beaucoup de chrétiens ne crient pas? C'est pour cette simple et unique raison qu'ils n'ont pas compris ce que c'était la vie de prière. Parce qu'il n'y a pas que la communion fraternelle, il y a un véritable combat. Et Dieu ne supporte pas la légèreté. Vous vous rappelez ce fameux Belshazzar? Je termine. Vous rappelez Belshazzar? Ce roi païen qui s'imaginait qu'il pouvait faire ce qu'il voulait parce que c'était un petit roi, comme beaucoup de gens aujourd'hui qui s'imaginent qu'ils sont des petits roitelets. Et un jour, parce qu'à force, alors vous allez me dire, ouais, mais regarde, c'est plus comme du temps d'Ananias et Saphira. Ananias, il a menti, paf, il est tombé mort dans le temple, sa femme est arrivée quelques heures après, ou l'inverse, paf, elle est morte dans le temple, Dieu ne châtie pas comme avant. Écoutez bien. Quand il y a la gloire de Dieu, le jugement, il est instantané. Vous comprenez ce que je veux dire? Quand il n'y a pas la gloire de Dieu dans l'Église, le châtiment, il est reporté. Mais ce n'est pas parce que Dieu ne juge pas maintenant qu'il ne jugera pas plus tard. Est-ce que vous comprenez? Et Belshazzar, qui se l'a joué. Il jouait, il a bu, il a fait le malin, il a fait venir les vases d'or qui venaient du temple de l'Éternel, il s'est amusé avec les choses de Dieu. Et moi je pense qu'il y a un temps pour rire, et c'est bien, parce que moi j'aime rire, je vous assure c'est vrai, même s'il y en a qui ont du mal à le croire. Quelqu'un un jour a dit à mon fils, mais ton père, ça lui arrive de rire? Eh bien oui, ça m'arrive, et j'aime rire, croyez-moi, et je suis heureux. Belshazzar, il s'est amusé avec les choses de Dieu. Et puis tout d'un coup, Dieu est intervenu. Il y a une main qui est apparue dans la salle à manger. Et entre autres, il avait écrit « Léger, tu as été... » Il a demandé des explications. Et Daniel lui a dit « Mais mon pauvre, tu as été pesé dans la balance. Et tu as été trouvé léger. » On ne rit pas avec les choses de Dieu. On ne rit pas avec l'éternité des gens. Avec notre éternité. On ne rit pas avec le salut. Est-ce que vous comprenez, mes frères et sœurs ? On rit avec ce qui est risible. On ne peut pas rire de tout. Il y a plein de choses qui sont marrantes, et qui sont joyeuses, etc. Et béni soit Dieu, il y a un tas pour tout. Mais mes frères et sœurs, on ne rit pas avec l'Église. On ne rit pas avec le salut des âmes. On ne rit pas avec notre salut. Ce sont des choses éternelles. Ce sont des choses solennelles. Et nous devons tout faire. Et quand on voit quelqu'un dans le péché, moi je bénis Dieu parce qu'il y a des gens, on n'osait pas vous le dire, monsieur, vous ne voulez pas critiquer. Ce n'est pas de la critique. Quand vous venez me voir pour me dire qu'un garçon est déplacé avec une jeune fille, mes frères et sœurs, ce n'est pas de la critique. Vous protégez l'Église. Alors les garçons, les jeunes filles, rassurez-vous, si cet après-midi un jeune homme veut inviter une jeune fille au Capitole à boire un thé, c'est bien. Mais oui, c'est bien. Et si vous fréquentez et que vos fréquentations ne durent pas, c'est bien, ce n'est pas grave. Il y a quelqu'un qui m'a dit, oui, mais on est fiancés depuis 6 mois. Maintenant, si on rompt, que va penser l'Église ? Ben, rien du tout. On ne va rien penser du tout. Parce que, ben, on va pas... Vous voyez la pression ? Comment on peut mettre la pression sur quelqu'un ? On n'a pas, l'Église n'a pas à mettre la pression sur des jeunes. Ah, mais maintenant, ça fait un an que vous êtes ensemble. Mais vous devriez vous marier. Moi, je vous vois bien ensemble. Mais non, mais de que je me mêle ? Les gens, ils ont besoin de temps pour fréquenter. C'est pour ça que... Non, mais je vous dis ça parce que ne me dites pas que j'interdis les fréquentations. Bien au contraire. C'est ça qui nous permet de voir si la personne, elle est compatible. Mais je fais la différence entre des fréquentations saines et intelligentes et puis des gars qui viennent exprès pour flirter avec des filles. L'Église, c'est un lieu merveilleux où on doit voir le Saint-Esprit agir, le Saint-Esprit bénir. Cet après-midi, on a une réunion d'évangélisation. Vous voulez pas voir des âmes sauvées ? Moi, j'étais heureux quand j'ai vu Cédric pleurer. Pleurer dans la pièce à côté. Eh, vous vous souvenez ? Il pleurait comme une madeleine. Mais moi, je pleurais de joie aussi. Et à quoi j'ai reconnu vraiment qu'il s'était converti en ça a pris 2 minutes. Il n'a pas dit, qu'est-ce que Dieu va me donner maintenant ? Il a dit, qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Et il a fait tout ce que je lui ai dit. Voilà la conversion. La conversion, c'est obéir à Dieu. Mes frères et sœurs, notre Dieu, il est puissant. Notre Dieu, il est vivant. Il est au milieu de nous. Dès que 2 ou 3 frères sont assemblés, il est au milieu de nous. Mais il agit, mes frères et sœurs. Et ça, c'est l'enseignement de M. Olé qui m'a permis d'y réfléchir. Il agit quand on tient compte de ce qu'il enseigne. Et on ne peut pas prendre une promesse, voyez, comme ça, au détriment de la discipline dans l'Église. C'est sérieux, la discipline dans l'Église. Vous savez, il y a un pasteur, dernièrement, je vous le dis, mais c'est... Ne riez pas, s'il vous plaît, ne riez pas. Vous savez, il a demandé à un païen de présenter la Sainte Cène. Et le païen, il est monté sur l'estrade, il l'a fait. Écoutez, non mais il a dit, voilà, monsieur le pasteur m'a demandé de présenter la Sainte Cène, donc je vais le faire, mais je tiens à vous dire que je ne me convertirai jamais quand même. Mot à mot. Et voilà, et tout le monde a dit alléluia, parce que vous rendez compte, quel avancement ! Quel avancement dans les églises ! Mes frères et sœurs, si vous croyez que c'est comme ça que Dieu va nous approuver ? Alors soyons intelligents, demandons à Dieu de la sagesse, demandons à Dieu de la douceur. Mes frères et sœurs, si le Saint-Esprit nous honore, si Jésus a dit qu'il nous honorerait, le Père nous honorerait. Moi je me réjouissais tout à l'heure quand j'entendais cette jeune fille prier, que Dieu avait exaucé à une prière qu'elle avait tout juste murmurée. Vous croyez que Dieu peut le faire ça ? Des prières qu'on n'a même pas prononcées à haute voix. Eh oui, il est puissant le Seigneur. Et cet après-midi, il peut amener un rétrograde, et 2 et 3, et un fils prodigue, et un pêcheur, et des Cédric, et des Astrid. Astrid, c'est un drôle de prénom. Mais il peut quand même amener des Astrid. Oui ou non ? Est-ce qu'il peut amener des Astrid ? Astrid. Bon. Mes frères et sœurs, Dieu, il nous aime. Il aime les Antillais, il aime les Guyanais. C'est des Guyanais que vous êtes, hein ? Mes frères et sœurs. Non. C'est pas de Guyane que vous êtes ? Oh, c'est pareil, c'est la Guyane. C'est les Antilles françaises. Voilà, vous êtes virés de l'Église. On va remercier le Seigneur. Vous êtes d'accord ? On va lui demander de l'aide. Vous partez pas ? Non ? Non. Demandons-lui son aide, mes frères et sœurs. Demandons-lui son aide. Vous croyez qu'on peut y arriver à ça ? Ah ouais. Vous savez, si on est sérieux avec ces choses, Dieu va nous aider. Plein de douceur, plein d'amour, de vérité, de justice. Croyez-moi, mes frères et sœurs, ça plaira au Seigneur. Dieu a béni Groyer, je vous assure, je l'ai vu. Et je crois que Dieu bénira Sainte-Anne si on le fait. D'une manière sérieuse, pleine d'affection pour les âmes perdues. Notre Père, notre Dieu, nous voulons te bénir. Oui, nous le croyons, que tu honores ta parole. Ce que nous voulons, Seigneur, c'est avoir cette approbation divine. Aide-nous à chacun. Tu sais combien nous avons besoin de discernement, de bon sens, de sagesse, de devenir ces chrétiens équilibrés qui pourront refléter ton amour et ta vie, puisque nous sommes à notre tour la lumière. Que ton nom soit béni, Seigneur Jésus. Amen.